m'accueillir ce soir pour cette conférence sur un sujet européen. Alors, puisque je dois me présenter, donc je m'appelle Christian Krieger et pas Jean-François ou Eric. Je crois, oui. Voilà. Je suis pasteur de l'église protestante d'Alsace-Moselle depuis plus d'une trentaine d'années. J'étais pasteur en paroisse à Strasbourg. Et à la suite de cette expérience paroissiale de 17 ans, j'ai été appelé à présider l'église réformée d'Alsace-Moselle, que j'ai présidée pendant une dizaine d'années. Et en fait, ce passage a été une forme de bifurcation dans mon parcours professionnel, puisque depuis, je ne fais que présider. En 2018, j'ai été appelé à présider la conférence des églises en Europe, et c'est un peu de ce point de vue que je vais vous parler ce soir, et de cette expérience. Et actuellement, pour terminer, donc cette présidence européenne, je l'ai assurée de 2018 à 2023. Et depuis 2022, je préside la Fédération protestante de France, donc l'instance qui représente le protestantisme français auprès des pouvoirs publics et porte la parole des protestants dans le débat public en France. Alors donc je suis heureux d'être là ce soir pour vous parler des églises et de leur contribution au projet européen. Je parle donc du point de vue, ça il faut que je vous l'explique peut-être un peu comme un préalable, du point de vue de la conférence des églises en Europe. Il y a en fait une instance, une organisation œcuménique qui a été fondée en 1959, j'y reviendrai tout à l'heure, qui s'appelle la Conférence des Églises en Europe et qui aujourd'hui regroupe 114 églises sur l'ensemble du continent européen, c'est-à-dire grosso modo des églises en Russie, en Islande, à Malte, en Turquie, voilà, de Gibraltar jusqu'à Vladivostok et puis d'Islande jusqu'aux confins de la Turquie. 114 églises que nous avons pour habitude de regrouper en trois familles. Alors des familles qui sont plus ou moins bien apparentées, puisqu'il y a à la fois des églises protestantes, parmi elles notamment les églises luthériennes, des églises réformées, des églises unies, des baptistes, les méthodistes, l'armée du salut, etc. Puis vous avez un pôle qui est un pôle qu'on appelle le pôle orthodoxe, dans lequel vous avez un certain nombre d'églises orthodoxes, et puis est apparenté à ce pôle une église apostolique arménienne, puisque l'Arménie aussi fait partie de la conférence des églises en Europe, un pôle orthodoxe qui est très composite en fait, puisque vous avez l'église orthodoxie de Serbie, de la grecque, la roumaine, la bulgare, etc. Et puis il y a un troisième pôle, une troisième famille ecclésiale qui est la famille, on appelle la famille des églises, l'église anglicane, à laquelle donc c'est la Church of England, si vous voulez, et puis tout l'anglicanisme en Europe. Et à cette famille est apparentée qu'on appelle les vieux catholiques, qui sont des qui existent notamment en Suisse, en Belgique ou dans le Benelux. Quand j'ai pris mes fonctions au niveau de la conférence des églises en Europe, je m'imaginais donc, vous voyez, porter la parole de l'orthodoxie, l'anglicanisme et le protestantisme. Enfin, c'est un spectre énorme sur un certain nombre de sujets. Ce sont des églises qui sont absolument pas, comment dirais-je, alignés sur une position commune. Et quand j'ai pris mes fonctions, en fait, je m'imaginais que le débat allait se jouer entre les familles confessionnelles. C'est-à-dire que finalement, on poserait une question, et puis tous les orthodoxes penseraient comme ça, et puis les protestants débattraient sur cette ligne-là, et puis les anglicans seraient encore ailleurs. Et en fait, quelle n'a été ma surprise de voir, et c'est vraiment une leçon européenne, quelle m'a été ma surprise de voir que sur la plupart des sujets, quand nous n'étions pas d'accord, on pouvait pratiquement tirer un trait de Helsinki jusqu'à Vienne, Et toutes les églises qui étaient de ce côté-ci de la ligne, du côté est, si vous voulez, pensaient peu ou prou la même chose. Et ceux qui étaient du côté ouest pensaient peu ou prou la même chose. C'est dire que, en fait, nos approches des questions éthiques notamment, ou du rapport aux politiques, ou d'autres sujets encore, sont fortement marquées par nos contextes et nos histoires. Beaucoup plus qu'on veuille le croire. Ça a été une leçon un peu marquante pour moi, puisque vous savez, les protestants se font fort de dire notre foi, notre vision d'église, tout ça est fondé sur l'autorité seule de l'écriture, et puis on se rend compte que finalement il y a beaucoup de culture et d'histoire qui se mêlent à la lecture de l'écriture et à son interprétation. Donc c'est un peu une leçon d'humilité qui m'encourage en fait à être aussi très, très ouvert sur le plan œcuménique à d'autres, même y compris d'autres expressions chrétiennes sur le territoire français. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire de cette expérience européenne, c'est que il y a une énorme diversité aussi de rapports entre Église et État. Puisque les 114 églises relèvent de 42 pays. Donc vous avez, si on pourrait les mettre sur une échelle, si vous voulez, vous avez d'un côté probablement la France avec cette séparation très radicale entre les cultes et l'État, et puis vous avez par exemple de l'autre côté de l'échelle le Danemark où l'Église luthérienne est religion d'État. Et puis vous avez tout un spectre de nuances. Voilà, l'Église anglicane qui a un chef symbolique qui est aujourd'hui le roi, à l'époque c'était la reine. Voilà, mais avant même un archevêque, voilà, ou les régimes allemands ou italiens qui ne sont plus de l'ordre d'un concordat, mais qui quand même l'État a un rôle de collecte de fonds, l'Autopermille en Italie ou la Kirchensteuer en Allemagne. Bon, toutes les nuances. Et c'est pas évident parce que ça veut dire aussi ces cultures génèrent un rapport à la société, un rapport à la question publique, à la politique si vous voulez. Et puis peut-être un dernier, mais ça c'est plus pour votre édification, je crois que toutes ces églises sentent aujourd'hui une urgence que d'investir l'évangélisation. Et c'est un leitmotiv qui traverse l'ensemble de ces 114 églises. Et ce qui est surprenant, c'est que chacune cherche à évangéliser selon sa propre tradition et culture. L'église orthodoxe va en fait célébrer la sainte liturgie, et par ce biais-là, elle cherche à évangéliser ceux qui viendraient se rendre au temple. En Angleterre, vous avez plutôt des gens qui vont aller dans la rue avec un escabeau et prêcher dans la rue. En Suède, on dira plutôt l'Église a besoin d'avoir un propos prophétique ou a besoin de servir, de faire de la diaconie, et quand on posera la question « mais pourquoi tu fais ça ?», on répondra « mais parce que je suis chrétien, parce que je crois en Jésus-Christ, et voilà, etc. » Et donc chaque Église, en fait, par la liturgie, par la diaconie, par la parole prophétique, par l'animation de rue, par la vie communautaire, par le rayonnement d'une vie communautaire, etc. Enfin, chacun faisait valoir un peu sa propre culture, mais tous étaient d'accord pour dire qu'il nous faut réinvestir le témoignage du Christ dans notre visée de vie d'Église. Alors ça transcende d'ailleurs. Alors pour cette soirée, pour le temps qui m'est imparti, je vais essayer de vous parcourir trois moments. Un premier temps, je voudrais vous parler un tout petit peu du projet européen, pour que vous compreniez aussi où sont ses fragilités, où sont ses défis. Un deuxième point, ça va être un peu le cadre de l'intervention des églises et leur contribution au projet européen. Et le troisième temps, c'est je rentrerai un peu plus dans cette contribution et dans ces thématiques aujourd'hui. Mais peut-être avant d'entrer dans ce plan, vous dire que habituellement, en matière œcuménique, l'Église catholique a un grand défi, c'est qu'elle a une multiplicité d'interlocuteurs. Et qu'en fait, pour quelqu'un qui est en responsabilité, c'est souvent assez compliqué. Est-ce qu'il faut parler avec les protestants, puis les anglicans, puis les orthodoxes, et puis les évangéliques et... Donc en fait, voilà, une Église est engagée dans une multiplicité de dialogues. Eh bien, au niveau européen, c'était pour moi, en tant que responsable des orthodoxes, des anglicans et des protestants, c'était pratiquement l'inverse. J'avais deux interlocuteurs catholiques pour moi tout seul. Et selon le sujet que j'avais à traiter, il fallait aller voir l'un ou l'autre. Et je voulais quand même rapidement vous dire quelle est l'organisation de l'Église catholique au niveau européen, parce que c'est quand même important que vous le sachiez. Monseigneur pourra peut-être compléter. Donc l'Église catholique est organisée par deux instances. Qui n'ont pas le même périmètre ni les mêmes fonctions ou finalités. Un premier périmètre, c'est en fait ce qu'on appelle la COMECE, c'est-à-dire la Commission des conférences épiscopales de l'Union européenne. C'est-à-dire chaque pays de l'Union européenne, la conférence épiscopale de chaque pays de l'Union européenne délègue un représentant dans cette COMECE, dans cette commission, dont la mission, c'est justement de porter la parole de l'Église catholique auprès des institutions de l'Union européenne, les 27 aujourd'hui. Et vous avez un éminent évêque, Monseigneur Hiroire, qui est délégué par la conférence épiscopale française à la COMECE, et avec qui j'ai beaucoup travaillé, et qui est à Dijon aujourd'hui. Donc ça, c'est une instance, principalement plaidoyer politique Union européenne. Et puis vous avez une deuxième instance qui a une visée plus pastorale et qui couvre l'ensemble du continent européen, qui est le Conseil des conférences épiscopales européennes, la CCEE, pour ceux qui aiment les sigles, qui est aujourd'hui présidé par l'archevêque de Lituanie, Krušas, et donc qui s'occupe beaucoup plus des questions pastorales, de l'action œcuménique, et qui est habilitée, elle, par exemple, à intervenir au Conseil de l'Europe de Strasbourg, où la COMECE n'intervient pas, puisque le Conseil de l'Europe est une des instances qui couvre, dont la mission c'est la démocratisation et l'éducation à la démocratie en Europe. Voilà, donc là, l'interlocuteur c'est la CCE, et dès que vous allez à Bruxelles ou au Parlement européen quand il siège à Strasbourg, c'est la COMECE qui intervient. Et donc moi, protestant, j'avais en fait deux vis-à-vis, contrairement à l'habitude. Voilà. Pour après entrer un peu plus dans le détail, si vous voulez. Alors je voudrais commencer un peu par l'idée d'une Europe unie qui a donc surgi à la fin je rentre dans mon premier plan qui est un peu « D'où venons-nous ?» qui est un peu une idée qui a surgi après la Deuxième Guerre mondiale, elle était déjà antérieure. Vous savez, les deux guerres mondiales ont fonctionné un peu comme des traumatismes originaux, et de l'œcuménisme et de la construction européenne. L'œcuménisme, on n'a pas compris. Après la Première Guerre mondiale, les églises ont dû se poser la question, comment est-ce possible qu'entre chrétiens, on commette les barbaries des tranchées ? Entre des États chrétiens. Et en fait, cette question a été un élément porteur en fait, du mouvement œcuménique qui était antérieur. Édimbourg, c'est en 1910, mais la première grande réunion à Édimbourg est en 1910. Toujours est-il que la Première Guerre mondiale a été un facteur accélérant et favorisant le mouvement œcuménique. Et la Deuxième Guerre mondiale, en fait, comment est-ce possible qu'un État chrétien commette un crime contre l'humanité, a lui aussi été un vecteur accélérant pour le projet européen et pour l'œcuménisme, y compris la révision en fait aussi de nos rapports, notamment au judaïsme. Et ce projet européen, en fait, il s'est construit à l'origine sur le plan uniquement économique. L'idée, c'est de dire si les États sont économiquement dépendants les uns des autres, l'union va se faire. C'était le calcul, donc vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, il y a la communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc cet axe économique va être le socle même de la construction du projet européen. Et en fait, après, on s'est rendu compte que ce n'est pas juste le socle acier-charbon. En 1957, il y a le traité de Rome, où on parle de la communauté économique européenne. Et progressivement, on va se rendre compte que cette Europe se construit, avec dans les années 70 un premier élargissement, l'adhésion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume-Uni, et la constitution en 1986 du marché unique. On a eu un profond ébranlement symbolique avec la chute du mur et l'effondrement de l'Union soviétique sans effusion de sang. D'ailleurs, un effondrement dont nous payons encore aujourd'hui le prix parce que nous avons tous cru alors que c'est l'économie de marché et le capitalisme qui l'a remporté, qui est supérieur. Et aujourd'hui, nous en vivons les effets, alors que finalement, c'est un régime qui s'est effondré. L'autre n'était pas nécessairement, enfin, si, meilleur peut-être, mais n'est pas la quintessence non plus. Et en fait, cet effondrement de l'Union soviétique a reposé une toute nouvelle question. Comment allons-nous vivre dans une Europe plus large? Est-ce qu'on va poursuivre cette construction européenne? Et en fait, effectivement, cette marche s'est engagée avec les accords de Schengen au début, fin des années 90, avec la monnaie unique en 2000. Hein, c'est l'histoire qui est la vôtre que je vous raconte, hein, c'est pas juste. Et donc, un élargissement à 27 sur la période à peu près 2000 à 2010. Et en 2010, l'Europe bascule. En 2010, il y a une bascule qui se joue, alors que jusque-là, dès qu'on parlait d'Europe, c'était un projet incontesté. C'était comme un argument absolu, pratiquement divin. Moi, j'ai encore lu récemment des textes du début des années 2000. On invoquait l'Europe pour dire c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et en 2010, il y a une bascule où l'Europe, soudainement, devient le problème. Avant, c'était la solution. Et on sent ça, alors c'est la conséquence de la première crise économique des subprimes, mais on a la montée de l'euroscepticisme au Parlement européen dès 2014. Vous avez la première crise migratoire et les tensions entre les États. Vous avez le référendum avec le Brexit. Tout ça, c'est dans cette phase-là. Et on arrive presque vers les négociations de notre encore Premier ministre, Michel Barnier, sur la mise en œuvre du Brexit jusqu'en 2020. Donc, jusqu'en 2020, l'Europe est un problème. Et en fait, on sent monter des pays qui entrent dans une résistance vis-à-vis de l'Europe. Et en fait, on a une nouvelle bascule historique. Après, je viens dans le travail des églises sur cette histoire-là. Et on a une nouvelle bascule qui se joue pratiquement au moment de la pandémie, et qui a été doublé par la guerre en Ukraine, l'agression militaire de la Russie en Ukraine. Cette bascule, c'est que finalement, l'Europe a été capable d'organiser les vaccins pour l'ensemble des pays membres. Ce ne sont pas les pays, même si certains avaient bien négocié, notamment en Allemagne, mais l'Europe a été un protecteur, j'allais dire, pour tous les citoyens européens, au moment de la pandémie. Et ensuite, au moment de la guerre en Ukraine, il s'est passé une nouvelle bascule, c'est que les États ont compris que la neutralité n'est plus une option. Les Suédois, les Finlandais ont intérêt à l'OTAN. Les Suisses ont réactivé leur dialogue d'adhésion dans peu ou prou à l'Union européenne, en tout cas d'avoir un statut particulier, même si ces discussions sont compliquées. L'Europe a soudain senti une menace militaire et s'est réengagée dans des logiques de défense, d'armement. La question qui souvent a été portée par la France d'une défense en tout cas coordonnée, voire commune, a tout à coup le vent en poupe. Et on vit de nouveau, depuis le début des années 2020, enfin depuis 3-4 ans, un moment Europe. Les lames critiques sont toujours là. Vous pouvez constater, si vous regardez les résultats des dernières élections européennes, que finalement ces lames poussent toujours dans un pays ou dans un autre, notamment le vote en France, ça a été quand même très. Le vote des partis contestataires de l'Europe voilà, a été assez significatif. Mais en fait, au niveau européen, ça se régule. En même temps, en Pologne, où les eurosceptiques étaient au pouvoir, Donald Tusk est arrivé, et les choses se régulent au niveau européen, alors qu'on peut avoir des poussées, des accès de fièvre dans un pays ou dans un autre. Et ce qui est significatif de cette bascule aussi, c'est que tous les eurosceptiques ont enlevé de leur programme la sortie de l'Union et le retrait de l'euro. C'est plus du tout dans le programme du Rassemblement National en France. C'est plus du tout dans le programme de Meloni en Italie, etc. C'est-à-dire on a un fonds de commerce eurosceptique, mais on est quand même bien au chaud dans l'Union européenne. Voilà grosso modo le rappel un peu historique. Et maintenant, comment finalement les églises ont contribué un peu à ce parcours. Alors j'ai envie de vous dire que les églises ont été assez précurseurs. Alors, j'ai une moins fine lecture, maintenant je parlerai un peu plus protestant, anglican, keck, j'ai une moins fine lecture pour l'Église catholique, je reviendrai dans l'actualité, j'ai de nouveau beaucoup plus de lectures, parce que cette histoire, je ne l'ai pas étudiée. Mais côté conférence des Églises en Europe, dès le début des années 50, nous avons des responsables d'Églises, les Églises sont toutes nationales, en fait, contrairement au catholicisme qui est organisé au niveau mondial, mais qui a des structures en fait de collaboration avec une conférence des évêques dans chaque pays. Les églises protestantes sont des églises grosso modo sur un périmètre national, d'où le problème du nationalisme lors de la Première Guerre mondiale, qui était aussi soutenu par certaines voies d'église. Donc les églises étant toutes nationales, les responsables chrétiens en Europe, à l'Est et à l'Ouest, même au pire moment de la guerre froide, se sont rencontrés clandestinement pour créer des ponts par-delà le rideau de fer. Et ces discussions se tiennent pratiquement au début même de l'émergence de l'idée européenne avec la communauté européenne du charbon et de l'acier. Et c'est ainsi que, très très rapidement, en 1959, la conférence des églises de l'Europe est créée. Elle est créée sur l'ensemble du territoire européen, même si un de ses plans d'action se situe au niveau de l'Union européenne. Il était important pour ces églises, et je crois que ça c'est une première contribution que je voudrais vous mettre à cœur. Je suis intimement convaincu qu'on trouve ça dans l'Église catholique, mais je n'ai pas les références, mais peut-être que Monseigneur pourra nous aider. En fait, l'identité chrétienne transnationale a été vecteur de volonté de se donner la main entre chrétiens, de dépasser les frontières, y compris les frontières idéologiques, politiques, pour affirmer en fait une commune humanité en Europe, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est vécu au niveau orthodoxe, protestant et anglican de l'Union européenne. Et en fait, à ce moment-là, en fait, il y avait trois. Alors, tenez-vous bien, il y avait trois. Et les églises se concevaient en fait. On pourra y revenir vers l'actualité. Les églises se concevaient comme des instruments de paix et de compréhension au cœur d'une Europe ravagée, d'abord par la ruine de la Shoah et ensuite par la guerre froide. Les deux. Alors, je ne sais pas précisément l'histoire de l'Église catholique, mais je suis intimement convaincu qu'on est sur les mêmes. Quand la conférence des églises européennes a été créée, dans les années 53 à 57, ces responsables d'église avaient trois idées en tête. Premièrement, figurez-vous, le souci de témoigner de l'évangile dans une Europe sécularisée. On dirait que c'est aujourd'hui, hein, mais on est dans les années 50. Hein, le souci de témoigner de l'évangile dans une Europe sécularisée. L'autre souci, c'était l'accueil et la collaboration avec les petites églises. Alors ça, il faut que je vous l'explique un tout petit peu. L'accueil et la collaboration avec les petites églises, c'était le Conseil œcuménique des églises, qui regroupe aujourd'hui 340 églises, dont le siège est à Genève, a été fondée en 1948, donc on est encore un peu antérieur à l'histoire européenne. Et en fait, lui ne travaillait qu'avec des grandes églises. Et du coup, nous avions énormément de petites églises, des églises baptistes par exemple, ou l'Armée du Salut, qui ne trouvaient pas leur place. Et nous, Européens, en fait, on a d'emblée annoncé un souci pour les minorités. Les minorités ecclésiales aussi. Et donc, la conférence des églises, la CEC, a été porteur de cette attention aux minorités. Et donc, le troisième élément qui est porteur à l'époque, c'est la volonté d'œuvrer à la réconciliation partout où cela est nécessaire. La réconciliation partout où cela est nécessaire. Alors, on a ce beau slogan de la CEC qui est de bridge building, donc de construire des ponts ou des passerelles. Alors, bien sûr, à l'époque, c'était entre l'Est et l'Ouest, et c'était entre les églises majoritaires, les cadets avec 22 milliers de membres, et peut-être l'église réformée de Pologne qui a 4000 membres. Vous voyez la symétrie, hein, entre les confessions, bien sûr, que j'ai mentionnées. Et en fait, on aboutit donc en 1959 à la création de cette conférence des églises européennes. Et elle a une belle histoire. Elle s'est créée dans une assemblée générale qui s'est tenue au Danemark. Elles se sont régulièrement tenues au Danemark, en fait. Et en 1964, en pleine guerre froide, figurez-vous, ça vous montre un peu l'ADN de cette contribution à l'idée européenne. Hein. En 1964, l'Assemblée générale a failli être annulée parce que les représentants de l'Allemagne de l'Est n'ont pas eu le droit de sortir après l'érection du mur, le mur de Berlin, n'ont pas eu le droit de sortir. Et alors, du coup, on a eu l'idée ingénieuse de tenir l'Assemblée générale sur un grand bateau qui était amarré dans les eaux internationales, près de Bornholm, au Danemark, et les Allemands de l'Est sont venus avec une barque. D'abord avec un bateau, puis ils ont descendu, puis avec une barque, et en fait l'Assemblée générale de la conférence s'est tenue sur un bateau avec des gens qui venaient des pays de l'Est et qui n'avaient pas eu les visas. Ça montre bien qu'on a construit des ponts humains, des églises ont construit des ponts humains au cœur d'une Europe ravagée aussi par des idéologies qui s'opposaient. Et qu'il y a quelque part dans l'action des églises en Europe une ADN autour de la paix, de la réconciliation, de la solidarité Est-Ouest et l'attention aux églises minoritaires. Ces églises ont posé, et je fais un pas en avant, dans leur contribution au projet européen, donc il y a cette fonction de précurseur et cette fonction de pont humain. Les églises ont posé des actes forts au niveau de l'Union européenne, et je voudrais quand même les mentionner parce que ça vous expliquera comment on a accompagné aussi l'imaginaire du projet européen. Ces églises ont posé, donc maintenant c'est œcuménique, c'est-à-dire ensemble, la CEC, la Conférence des Églises en Europe, et le Conseil des Conférences Épiscopales Européennes, donc l'homologue catholique, a organisé 3 rassemblements œcuméniques européens. Un en 89, un en 97 et un en 2007. Et je voudrais vous parler de ces 3 rassemblements parce que vous comprendrez un peu comment ces églises ont cherché à contribuer au projet européen. Et là encore, le rassemblement de 89 donc, est un rassemblement absolument fabuleux. On est à la veille en fait, de la chute du mur. On est un peu avant. Hein. Et en fait, il y avait une inquiétude majeure une crainte généralisée, si vous voulez, que l'humanité, en raison de ses modes de vie, des mutations civilisationnelles et des réalités géopolitiques, donc cette division idéologique de l'Europe, se dirige vers une crise systémique majeure. Et en fait, à Bâle, les catholiques et les protestants et les anglicans et les orthodoxes se sont rencontrés, ont travaillé sur la question « justice, paix, sauvegarde de la création ». Avec ce slogan, qui est d'ailleurs, moi je le cite toujours, parce qu'il a été absolument visionnaire, il n'y a pas de paix sans justice. Vous pouvez penser à l'Ukraine, si vous voulez, vous pouvez penser aux Palestiniens, à toutes les situations, aux Arméniens, au Karabakh. Il n'y a pas de paix sans justice. Vous pouvez penser à l'Afrique du Sud, au temps de l'apartheid. Pas de paix sans justice. Et il n'y a pas de justice sans sauvegarde de la création. Et là, vous pouvez penser aux gens qui habitent en Polynésie, sur ces îles qui disparaissent, ou tous ceux qui sont sous la menace à la fois des catastrophes climatiques ou du haussement du niveau de la mer. 89. C'est absolument visionnaire ce mot d'ordre, et il reste complètement d'actualité, peut-être même plus d'actualité aujourd'hui qu'en 89. Voilà, si vous voulez, la contribution en fait, hein, des églises catholiques, protestantes, anglicanes, orthodoxes à la construction de l'Europe. C'est-à-dire dès 89, d'être sur un plaidoyer qui porte ce message-là, qui a structuré nos pensées aussi jusqu'à aujourd'hui. En 97, cette rencontre européenne, donc toujours catholique, protestant, orthodoxe, anglican, s'est tenue à Graz, en Autriche. Et en fait, là, le grand sujet, c'était comment on pense la maison commune, comment on pense l'Europe après la chute du mur. Est-ce qu'on élargit? Est-ce qu'on stabilise d'abord les mécanismes internes? C'est des problématiques qu'on a toujours encore. Hein. Est-ce qu'on élargit Et en fait, la thématique, c'était la réconciliation, un don de Dieu et une source pour une vie redoublée. On a tenté de penser l'Europe après la chute du mur de Berlin, au moment de digérer, en fait, la guerre de l'ex-Yougoslavie. Donc on est là-dedans. Et à ce moment-là, le rapport final de cette rencontre de Graz est sensiblement proche de ce qui s'est fait à Bâle, hein. Graz souligne la nécessité de poursuivre l'œuvre de réconciliation entre les peuples pour contrer la méfiance et les peurs. La nécessité de dialoguer avec les religions, vous voyez, parce que les sociétés sont plurielles. La culture, dialoguer avec la culture. La requête d'un engagement social pour vaincre les pauvretés. L'exclusion et la marginalisation, en pensant notamment au statut des femmes, aux chômeurs, aux demandeurs d'asile, aux réfugiés, aux pauvres. Et l'impératif d'œuvrer à la résolution pacifique des conflits et de cultiver l'équité avec les autres régions de la planète. Graz a été un moment assez important parce qu'on a eu cette réflexion sur cette maison commune. Et on est, à ce moment-là, je reviendrai, les églises ont pris conscience de l'appel qu'avait lancé, je crois que c'est vers les années 92, Jacques Delors, quand il parlait de l'Europe a besoin d'un cœur et d'une âme. Jacques Delors avait pris conscience, en tant que commissaire de l'Union européenne, que le partenariat économique ou l'interdépendance économique ne suffit pas. Que l'Europe avait besoin de plus. D'un plus qui soit un socle commun. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'un socle des valeurs, mais le mot valeur est quelque chose de... C'est un mot un peu balise, où on met beaucoup de choses, et puis, vous savez, on peut aussi s'asseoir sur ces valeurs. Hein. Jacques Delors pensait très clairement, l'Europe a besoin de se ressaisir de son héritage, j'allais dire judéo-chrétien. Et c'est ça qu'il avait en tête. Et il a poussé, j'y viendrai tout à l'heure, il a poussé pour que lorsqu'on a écrit le traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui est en fait le traité de Lisbonne en 2007, il a poussé pour qu'il y ait un dialogue clair entre les cultes et toutes les instances de l'Union européenne. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Mais c'est ça la question du cœur. Et cette question du cœur, elle fait partie de ces réflexions. Est-ce qu'on continue à accueillir? Mais qu'est-ce qui nous lie les uns aux autres? Et est-ce qu'on arrive à se ressaisir de l'héritage chrétien ou judéo-chrétien? Aujourd'hui, certains voudraient rajouter les musulmans, mais pour moi, il n'est pas tellement palpable. Là, en Andalousie, il n'est pas européen, l'héritage. Il est en tout cas judéo-chrétien, c'est clair. Et on a une troisième rencontre œcuménique. Alors j'en parlerai plus brièvement, c'est celle de Sibiu en 2007. Grosso modo, elle n'a pas laissé de traces mémorables. On était peut-être juste heureux que les orthodoxes, les catholiques, les protestants et les anglicans se rencontrent en plein hiver œcuménique. Et les gens étaient reconnaissants qu'ils se rencontrent, qu'ils se parlent, et ils ont vécu un moment très fort et très chaleureux, mais pas un moment qui a eu une production significative. Mais parfois aussi, dans la vie économique, il faut savoir rendre grâce quand on se rencontre et quand on vit un moment ensemble, par-delà ce qui pourrait nous séparer, nous diviser, ou créer des écarts entre les uns et les autres. Et je viens maintenant peut-être à un des apports les plus significatifs de ce travail œcuménique. qui est assez intéressant et qui est très significatif, c'est que cette conférence des Églises en Europe et le Conseil des conférences épiscopales européennes a signé en 2001 une charte œcuménique. C'est important que je vous parle de ça. Le projet de la charte a été lancé à Graz en 1997. Cette charte œcuménique, c'est un texte très court. Alors si vous ne l'avez pas encore étudié dans votre groupe œcuménique, ça vaut le coup de l'étudier parce que bientôt elle sera périmée. J'ai pendant ma présidence lancé une révision, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, mais lisez encore l'ancienne, comme ça vous comprendrez mieux la nouvelle quand elle arrivera en 2026. C'est un texte de 4 pages, hein, donc c'est vite lu, vous prenez 3 soirées, il y a 3 chapitres. Un premier chapitre, c'est en fait des guidelines, des lignes directives, des orientations pour la coopération entre les églises en Europe. Et le premier chapitre énonce la manière dont nous concevons l'unité de l'Église. C'est intéressant parce que ça, c'est un chapitre théologique. Vous invitez Monseigneur, vous invitez Madame la Pasteur, et puis vous lisez ça, puis vous échangez, vous posez des questions. Comment est compris cette unité dans la diversité? Qu'est-ce que ça signifie, l'unité d'Église? Le deuxième chapitre, ça c'est encore plus intéressant, ça devient pratique. Comment conforter, approfondir cette unité de l'Église? Parce que le chapitre 1 annonce en fait que l'unité est en Christ et qu'elle nous est donnée. Et qu'en fait, notre problème, ce n'est pas de créer l'unité, notre problème, c'est de la reconnaître. Ça change la donne. Et de l'incarner, c'est-à-dire la vivre. Partent là ceux qui créent des incompréhensions, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a un deuxième chapitre, les modalités pour renforcer ce chemin vers l'unité visible. Et donc, il y a plusieurs propositions qui sont faites. Par exemple, le principe de Lund, faire ensemble ce qu'il n'est pas absolument indispensable de faire séparément. Les églises se sont engagées dans cette charte d'agir comme ça. Alors, est-ce qu'il faut faire de l'évangélisation séparément ou est-ce qu'il faut le faire ensemble? Est-ce qu'il faut jouer la complémentarité de nos talents et de nos cultures ecclésiales pour évangéliser? Et le troisième, et c'est ça qui est important, le troisième chapitre de la charte œcuménique, il est plus sociétal. C'est-à-dire, il parle des engagements des chrétiens, des églises, dans la construction de l'Union européenne ou de l'Europe des humains, ou de l'Europe des citoyens. Et dans ce chapitre, vous avez des engagements sur notre responsabilité commune vis-à-vis de l'Union, la construction européenne. Je vais vous lire ce passage, comme ça je cite quelque chose. Mais aussi notre responsabilité dans le dialogue avec les musulmans, avec les juifs, avec les familles philosophiques, notre responsabilité sur la question écologique, etc. Tout ça, c'est écrit là-dedans. Et c'est précisément parce que ces engagements datent de 2001 que j'ai pensé, quand j'étais en responsabilité, qu'il fallait les réviser. Il n'est pas question. Ce qui a en fait changé la donne en Union européenne, c'est à un moment donné la question sécuritaire. Après l'attentat de World Trade Center, tout le monde est passé en mode sécuritaire, terrorisme, etc. Et il y a eu un verre dans le fruit européen à ce moment-là. C'est pour ça qu'on est passé vers l'euroscepticisme. Entre autres aussi, c'est un des... Et donc, il n'est pas question de sécurité dans cette charte. Il n'est pas question de migration ou juste à la marge. On n'a pas du tout la question de l'urgence climatique. Et entre-temps, on a découvert un certain nombre de moyens, il faut que j'accélère, on a trouvé un certain nombre de nouveaux mécanismes pour approfondir l'unité en Christ. Par exemple, le Forum chrétien mondial n'existait pas encore en 2001, ou à peine. Donc toutes ces nouveautés qui sont des aides ont vocation à être mentionnées dans la révision de la charte économique. Donc du coup, je vais vous lire juste le passage sur la construction de l'Union européenne, comme ça vous saurez ce à quoi nous sommes collectivement engagés. Notre foi nous aide à tirer les leçons du passé et à nous engager à ce que la foi chrétienne et l'amour du prochain répandent l'espérance en matière de morale et d'éthique, dans la formation et la culture, en politique et dans l'économie, en Europe et dans le monde entier. Les Églises encouragent une unité du continent européen. Sans valeur commune, l'unité ne peut être atteinte de façon durable. Nous sommes convaincus que l'héritage spirituel du christianisme représente une force d'inspiration enrichissante pour l'Europe. Sur la base de notre foi chrétienne, nous nous engageons pour une Europe humaine et sociale dans laquelle s'imposent les droits de l'homme, et les valeurs fondamentales de la paix, de la justice, de la liberté, de la tolérance, de la participation et de la solidarité. Nous insistons sur le respect de la vie, la valeur du mariage et de la famille, l'option préférentielle pour les pauvres, la disposition à pardonner et en toute chose sur la miséricorde. Nous nous engageons, donc chaque fois, après chaque paragraphe, il y a un engagement, à nous entendre mutuellement sur les contenus et les buts de notre responsabilité sociale commune et à soutenir le plus possible ensemble les objectifs et les perspectives des Églises vis-à-vis des institutions séculières européennes, à défendre les valeurs fondamentales contre toutes les atteintes, donc ça c'est les droits de l'homme, à nous opposer à toute tentative d'abuser de la religion et de l'Église à des fins ethniques ou nationalistes. Tourner la page du nationalisme qui, voilà, a nourri la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est important. Donc vous pourrez lire cette charte œcuménique donc, qui est en cours de révision. Et en fait, souvent, on a lancé une évaluation de la charte œcuménique, on s'est rendu compte qu'elle était méconnue. En fait, elle traduit la culture européenne qui nous anime, quand bien même elle a agi ou elle représente un acteur, j'allais dire, discret. Peut-être elle traduit aussi un mouvement qui était en route. En tout cas, vous trouvez une photo de l'engagement, de la vérité, des finalités, telles qu'on les voyait en 2001, de l'action communique, et peut-être vous pourrez la critiquer. Alors j'en viens maintenant vers le contemporain. Donc vous voyez, il y a une fonction un peu précurseur, une fonction de réconciliation au cœur des peuples en Europe, un engagement avec une vision large de l'Union européenne afin d'intégrer le plus largement possible. J'en viens maintenant à l'action contemporaine. Et ça c'est, alors du coup, j'empiète un peu sur le sujet que vous avez annoncé pour un autre intervenant, dont vous avez parlé un peu de la laïcité. C'est méconnu, mais c'est le fruit en fait de cette demande de Jacques Delors qui voulait un cœur et une âme pour l'Europe. Dans l'Union européenne n'a pas de constitution. Il y a eu un débat, etc. On n'a pas voulu de constitution, puis... Vous savez, à l'époque, quand on a, sur le traité de Lisbonne, nous étions tous en train de nous acharner à défendre que soit mentionné dans le préambule l'héritage chrétien. Puis finalement, on n'a pas obtenu gain de cause. Par contre, on a obtenu gain de cause sur un autre point qui aujourd'hui s'avère extrêmement précieux. C'est que dans ce traité de fonctionnement de l'Union européenne, il y a un article, l'article 17, qui dit les choses suivantes. C'est très bref. Hein. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations communautaires religieuses dans les États membres. L'Union refuse de dire quel est le statut d'une église. Est-ce qu'elle doit être concordataire? Est-ce qu'elle doit être de l'ordre d'une laïcité? Est-ce qu'elle doit être... Ce n'est pas son sujet. Elle reconnaît, etc. L'Union respecte le statut dont bénéficient en vertu du droit national les organisations philosophiques et non confessionnelles, donc les humanistes, les francs-maçons, etc. Et le troisième intéressant, reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ses églises et organisations. C'est-à-dire quasiment constitutionnellement, l'Union s'oblige à un dialogue ouvert, transparent et régulier. J'ai rencontré celui qui est encore ministre de l'Intérieur pendant 24 heures, si j'ai bien compris ce qu'on a entendu tout à l'heure le 2 décembre, il me disait comment est-ce qu'on peut conforter le dialogue entre l'État en France et les cultes. Je lui ai cité cet article, j'ai dit écoutez, en Union européenne, c'est clair. Il n'y a pas du tout, il n'y a pas de confession, l'Union n'a pas de religion. Hein. Il y a une séparation claire, et pourtant l'Union est clairement engagée dans un dialogue ouvert, transparent et régulier. Vous devriez réunir dans votre bureau au moins deux fois par an tous les responsables des cultes sur les questions que vous avez besoin de discuter avec eux, telle loi, etc. Il a trouvé ça très intéressant. Alors c'est un catholique pratiquant de Vendée, c'est un homme très intelligent, et il se dit, on va faire ça. Alors le problème, c'est qu'il n'est plus là après-demain. Bon, on reprendra notre... Mais entendez simplement qu'il y a une autre manière d'instituer un dialogue que simplement de vivre une séparation radicale et puis des gens qui ont peur de parler à un responsable religieux en France. Alors, comment ça se passe? Donc, c'est très simple. Alors, cet article a des limites. Si par hasard, dans un petit État, le Liechtenstein, prenons un petit, l'Église de Scientologie graisse un tout petit peu la patte d'un ministre, etc., et obtient le statut de culte, elle entre dans les cultes reconnus par l'Union européenne. Parce que, du coup, cette Église serait reconnue par un État membre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très ouvert, mais en même temps, cette organisation contient quand même ses limites. Alors, comment ça se passe, ce dialogue, et comment donc les Églises contribuent à cette Union européenne? Eh bien, en fait, on a quatre niveaux de dialogue. Ce dialogue se joue à tous les niveaux, à toutes les instances européennes. Et je peux rapidement les évoquer. Premièrement, vous savez que il y a la Commission européenne, ça c'est le plus connu peut-être, puisqu'on parle souvent de Ursula von der Leyen. Donc la Commission, grosso modo, c'est l'exécutif, c'est le gouvernement. La Commission européenne, une des vice-présidentes, en l'occurrence à l'époque c'était une, aujourd'hui c'est un, a en charge le dialogue avec les cultes. Il les réunit deux fois par an dans son bureau. Un dialogue qui... Alors parfois on s'est en tiré profit, parfois on a l'impression qu'on est juste réunis, alors je vous dis mon sentiment, parfois on a l'impression qu'on est juste réunis pour faire la photo et pour dire que le dialogue a eu lieu, qu'on s'est parlé. Ceci dit, il y a des moments où le dialogue était extrêmement intéressant. Au moment où la guerre en Ukraine a commencé, moi je me suis rendu très rapidement en Ukraine, dès le mois de mars, même pas quatre semaines après l'invasion, je suis allé en Ukraine rencontrer les églises, etc. Et quand le vice-président de la Commission européenne a réuni les responsables de culte, eh bien, j'ai pu dire ce que j'ai vu en Ukraine, j'ai pu parler un peu d'un certain nombre de sujets. Il était extrêmement demandeur parce qu'il a compris qu'il y a une question religieuse qui est mêlée à cette guerre. Je ne dis pas que c'est une guerre de religion, mais vous savez, toutes les guerres, enfin beaucoup de guerres, parfois, la religion ou les limites religieuses s'y mêlent. Et donc, en fait, j'ai essayé de lui expliquer qu'il y avait cinq strates, quand même une feuille, cinq strates religieuses qui étaient mêlées à cette guerre. Et donc, il était extrêmement demandeur. D'ailleurs, j'ai eu un rendez-vous particulier avec lui pour poursuivre les réflexions. Donc, il réunit, donc, le vice-président de la Commission réunit régulièrement les responsables donc, de ces deux organisations. Alors, nous avions pris comme principe la COMECE et donc, le président Jean-Claude Olerich, qui est l'archevêque de Luxembourg, on a pris comme principe qu'on travaillait systématiquement ensemble. Il a dit, il m'a invité chez lui au moment où j'ai pris mes fonctions, on a parlé longuement, on s'est tellement bien entendu qu'on s'est dit, nous ne pouvons pas plaider pour une Europe unie si les chrétiens ne sont pas unis dans leur plaidoyer. Donc on a dit, on travaillera ensemble. Et c'est même assez extraordinaire, ça c'est pour la petite histoire, mais c'est une petite fierté. Un jour, j'ai pu parler pour le christianisme devant l'Assemblée plénière du Parlement européen sur l'avenir de l'Europe. Jean-Claude Olerich, le cardinal, n'avait pas le temps de venir devant l'Assemblée plénière. On a été invité un samedi à 17h pour parler, un vendredi à 17h pour parler le samedi à 15h. Donc en fait, voilà, ça c'est des délais. La France n'a pas l'exclusivité de ce type de fonctionnement. L'Union européenne aussi, c'est vrai. Donc du coup, il était invité. Alors moi j'ai dit, écoute, je peux me rendre disponible. Il a dit, tu parles pour les catholiques. Et donc c'était extraordinaire quand même, comme témoignage d'humanité. Et cet après-midi, dans cette plénière de l'Union européenne, du Parlement, eh bien, je peux vous dire, quand j'ai dit, écoutez, je me tiens devant vous et je parle au nom de tous les chrétiens européens, des catholiques, etc., etc., parce que nous savons que pour plaider pour une Europe unie, il faut que les chrétiens puissent parler d'une voix unie, c'était le seul applaudissement de l'après-midi. Donc, deuxième niveau, donc le Parlement européen, ça c'était une plénière. Pour le Parlement européen, l'organisation est la suivante. Il y a en fait un petit bureau qui est chargé du dialogue avec le Parlement européen et il identifie régulièrement les sujets qui sont en chantier au niveau du Parlement et ce bureau organise alors un séminaire où il invite tous les parlementaires européens de tous les groupes, hein, les Verts, le PPE, etc. Et il les invite et les cultes viennent avec... catholiques, quelques viennent avec deux, trois conférenciers pour essayer de faire valoir un peu leur approche du sujet. On a eu des séminaires sur les droits de l'homme, sur l'intelligence artificielle, sur la migration, sur l'écologie, enfin, tous les sujets politiques. Chaque fois qu'il y avait un projet politique ou une parole éthique pouvait être utile, et bien les parlementaires qui travaillaient sur le sujet venaient écouter les responsables des cultes et les conférenciers qu'on proposait. Parfois, on prenait un spécialiste. Voilà, donc ce dialogue au niveau de la commission, au niveau du Parlement. Il faut vous dire aussi que nous avions, je vais vous donner encore un autre exemple, nous avions un accès immédiat, notamment, alors Madame van der Leyen n'a jamais voulu nous recevoir, alors elle est très très hautaine comme ça, mais Madame Metsola, qui est donc la présidente actuelle aussi du Parlement européen, elle nous recevait une à deux fois par an. Chaque fois qu'on avait un sujet, on appelait et puis elle nous recevait sans problème. On a même une fois, alors je vous dis ça comme ça pour vous montrer que parfois on peut porter une parole commune alors qu'on ne pense pas la même chose. Lorsque la Cour suprême des États-Unis a levé le droit, en fait, enfin a confié la liberté aux différents États de choisir le droit de pratiquer l'avortement ou pas, Roberta Metsola, la présidente du Parlement, a été mise sous pression politique parce que c'est une politique qui vient de Malte, et Malte c'est le seul pays en Europe où l'avortement n'est pas légalisé. Et donc c'était un coup politique qui était porté contre une personnalité politique de droite, notamment par un rapport qui venait du Portugal, porté par la gauche. Et donc on est allé la voir pour parler de ça. Alors vous imaginez ce que Mgr Ulrich a pu expliquer, etc. En fait, moi, je lui ai dit que je ne suis pas favorable à la constitutionnalisation, puisque c'était ça, à inscrire dans le droit fondamental européen, dans la Convention européenne des droits de l'homme, l'avortement, parce que c'est fragiliser les droits de l'homme, et quelque part, c'est marginaliser beaucoup d'acteurs qui travaillent à la cohésion de l'Europe. Alors, notamment aussi tout le catholicisme et l'ensemble des pays de l'Est étaient pratiquement marginalisés, c'est pas comme ça qu'on fait. J'ai dit, écoutez, trouver un moyen pour que tout État s'engage à autoriser l'avortement, mais ne le mettez pas dans le droit fondamental. Vous brandissez un chiffon rouge, un fanion qui va faire grimper sur du symbolique tout le monde. Et en plus, vous savez, les droits de l'homme, ils sont contestés dans leur universalité. On dit que les droits de l'homme sont... Voilà, c'est des droits qui s'appliquent partout et en tout lieu, mais aujourd'hui, c'est compliqué. Vous êtes dans un pays africain... Et vous avez une jeune fille abusée, on va lui dire, écoute, tu prends ça sur toi, on ne va pas se fâcher avec le voisin qui est l'oncle de la famille pendant trois générations. Et donc dans les structures de vie collectives, moins individualistes que les nôtres, la logique des droits de l'homme ne fonctionne pas. Et dans le monde asiatique et dans le monde arabe non plus. Donc si vous rajoutez encore dans les droits de l'homme le droit à l'avortement, vous allez pratiquement fragiliser durablement les droits de l'homme. J'ai dit, ne faites pas, trouvez un autre moyen et pas ça. Donc on avait un plaidoyer commun alors qu'on ne pense pas la même chose du sujet. C'était très intéressant. Ensuite, un troisième point. Il faut que j'avance maintenant, je pense que... J'ai encore un quart d'heure, hein, c'est ça? Un troisième lieu de dialogue. Alors ça, c'est, vous avez connu ça. Le Conseil de l'Europe est donc présidé. Le Conseil de l'Europe est présidé à tour de rôle pendant 6 mois par les différents États membres. La France a présidé au moment où le président Macron devait être réélu, l'Union européenne, ça vous le savez, le Conseil. Et en fait, chaque présidence énonce des orientations stratégiques pour faire avancer l'Europe, l'Union européenne. On va faire ça, ça et ça pendant les 6 mois. Et en fait, avec Jean-Claude Ulrich, nous demandions un rendez-vous à un ministre, à un premier ministre, à un ministre des Affaires européennes, voire à un président, pour discuter des priorités que les présidents mettaient sur la table. Et nous avons en général été accueillis, alors, par le président de la République portugaise, par le premier ministre croate, enfin on a fait le tour de l'Europe à chaque fois au début, et parfois on y allait même à la fin pour faire un point afin de mieux transmettre le prochain sujet. Et enfin, le dernier niveau de collaboration, vous voyez, donc c'est intéressant, à chaque niveau de gouvernance européenne, il y a un mécanisme de dialogue qui est pensé, qui est, voilà, alors, je vous parlerai de l'efficacité tout de suite avant de rentrer dans les sujets. Et enfin, après, à la fin, il y a en fait un dialogue régulier, notamment entre les équipes de la CEC et de la COMECE, alors qui travaillent très bien ensemble. J'aurais eu un deuxième mandat, je pense qu'on aurait fait une équipe commune. La commissaire a un très bon juriste et il n'y a pas besoin que la CAQ ait encore un juriste. On aurait pu faire des expertises qui se complémentaires, vous voyez, au lieu de doubler chaque structure. Mais bon, et ben cette structure est dialogue avec toute l'administration européenne, donc elles connaissent les gens qui travaillent sur ces dossiers, les conseillers dans les cabinets de l'Union européenne et de la Commission. Je voudrais vous dire, alors, est-ce que ce plaidoyer est efficace ou pas? Parce que quelque part, la contribution des églises, si je devais donner en une phrase, finalement, on travaille à travers les thématiques que vous avez entendues dans la Carta Ecumenica, on travaille à rendre les sociétés européennes, à travers le prisme de la manière dont l'Union européenne les construise et les structure avec ses directives, plus humaines, plus hospitalières, plus respectueuses des différences, plus sociales aussi, plus justes. Un jour, on avait une pression migratoire, c'était la branche qui passait par l'Ukraine d'ailleurs à l'époque, hein, où on s'attendait à une venue de 100 000 ou 200 000 Syriens qui venaient par le nord et qui allaient rentrer par la Pologne. Nous avons écrit, et puis l'Union européenne était en train de mettre en place des dispositifs et laissait finalement les gens dans le froid en Ukraine, enfin, c'était assez horrible. Donc on a écrit un beau plaidoyer sur qu'on a remis à la vice-présidente de la Commission européenne au début de l'avant. Et on a écrit un plaidoyer en rappelant que Jésus était, ses parents étaient sur les routes pour le recensement. Et puis après, il a dû fuir en Égypte. Et que les chrétiens étaient sensibles au sort des gens qui sont sur les routes de l'exil et que nous avions vocation à les accueillir humainement. Que ce n'est pas en les maltraitant qu'on pourrait réguler ou freiner les flux migratoires. Hein. Parce qu'il faudrait pratiquement maltraiter les gens plus qu'ils ne sont déjà maltraités dans leur pays. Bon, ça, c'est inconcevable pour nous. Donc on remet un plaidoyer dans ce sens-là, la vice-présidente de la Commission européenne, Mme McGuinness, qui est une catholique irlandaise, et elle nous dit, ce plaidoyer que vous me remettez est un embarras politique. C'est-à-dire, c'est le public, on fait des photos, on met sur les sites web, c'est un embarras politique. Et puis elle ajoute, merci de le faire. Et ce merci de le faire, ça voulait dire, vous êtes dans votre rôle, en tant qu'Église, à amener ce plaidoyer. La pression des populistes de Hongrie, et d'ailleurs on la connaît. Si vous ne faites pas ça, on a juste cette pression. Alors on n'arrive pas à mesurer l'efficacité, mais elle était très subtile, on n'arrive pas à mesurer l'efficacité dans le fait d'avoir obtenu ce qu'on a demandé, mais on doit occuper un espace pour y arriver, pour éviter une forme de dérive, notamment par la pression populiste au niveau de l'Union européenne, puisque celle-là, les lobbyistes sont là. Donc voilà, ça vous montre que la nécessité de ce dialogue et à quoi on contribue, quand bien même, finalement, on préserve parfois des équilibres qui donne un tout petit peu de marge de manœuvre à la vice-présidente de la Commission européenne, qui est une catholique convaincue et qui agissait dans le bon sens, mais qui était soumise elle-même à des pressions. Et donc on la confortait peut-être un tout petit peu aussi dans son identité religieuse. Et je peux vous dire que j'ai vécu avec beaucoup de bonheur de travailler avec des gens qui avaient des hommes et des femmes politiques au niveau de l'Union européenne qui avaient une culture religieuse. C'est un peu ce qui nous manque en France, Monseigneur. Hein. Enfin, vous savez mieux que moi d'ailleurs. Hein. Quand vous avez quelqu'un, qu'il soit catholique, protestant, orthodoxe, peu importe, mais on sait d'où il vient, eh bien, il vous accueille autrement quand vous êtes un responsable religieux que s'il nous accueille politiquement correct avec des promesses et des paroles en l'air. Voilà, donc on a ce genre de rencontres qui sont parfois aussi des moments importants. Alors, quelles sont les thématiques? J'arrive à mon dernier point, je vais faire un peu vite. En fait, je pensais que j'en aille pour trois quarts d'heure, finalement, je vous parle plus. Quelle est la contribution? Premièrement, je voudrais vous dire que la contribution des églises, elle est quand même fragile. Ça, j'ai besoin de vous le dire, parce que nous sommes nous-mêmes un peu divisés. Et peut-être, je ne saurais pas vous le dire pour le catholicisme, mais je pense que c'est vrai aussi. Au sein de laquelle on a un débat entre ceux qui rêvent de recristianiser l'Europe, et ceux qui admettent que l'Europe est séculière et que ce sont des sociétés plurielles et multiculturelles. Notamment, par exemple, je pense à mes amis orthodoxes grecs. Eux, ils rêvent de reconquérir l'Europe chrétienne. Bon, c'est toujours l'Est-l'Ouest, etc. Et c'est pas évident, en fait, d'avoir une parole commune quand on a le spectre comme ça en interne. Hein. Et puis, il y a les sujets sur lesquels on fait silence. Hein. Alors, je peux vous dire, par exemple, je reprends l'avortement, puisque, vous voyez, au sein de la CLEC, c'est une catastrophe. Les protestants sont plutôt pour, en tout cas les luthériens réformés pour que le droit existe. Ça ne veut pas dire qu'ils le demandent pour eux, mais ils sont pour que le droit existe. Les anglicans, peu ou prou aussi, et les orthodoxes, ils font mine d'ignorer le sujet. Ça n'existe pas. On ne pose jamais la question dans un conseil de direction de la CLEC de l'avortement. Les orthodoxes quitteraient la salle. Un sujet dont on ne parle pas. Donc entre le silence des uns, le pour des autres et les réserves de troisième comme les baptistes ou les armées du salut, il y a à peu près le spectre. Donc notre parole peut être fragilisée. Voilà. Et puis elle peut être fragilisée aussi par autre chose, ça il faut quand même que vous vous rendiez compte, c'est qu'à Bruxelles, vous trouvez à peu près 30 000 lobbyistes. On a parlé combien d'habitants pour Belfort? 50 000, hein, c'est ça? 30 000, donc un peu plus de la moitié de Belfort à Bruxelles sont là pour faire un travail de pression sur les instances de l'Union européenne afin de défendre, je ne sais pas quoi, Monsanto, les énergies fossiles, ou des choses plus nobles d'ailleurs, ou des médicaments, etc. etc. Donc on est dans une cour assez frérosse. Hein. Ce sont des frères, mais voilà, c'est vraiment 30 000, hein. C'est énorme. Hein. Je vous donne un chiffre quand même. L'industrie pétrolière et gazière a dépensé 140 millions de dollars pour les élections américaines en 2020, et 112 millions de dollars de lobbying au niveau européen. Non, millions, pardon, pas milliards, millions. Mais quand même. Mais non, c'est... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quand la CAQ a un budget de millions, de 3 millions, ou la COMESSÉ, c'est peut-être 4, enfin bon, vous voyez dans quel cours nous travaillons. Hein. Alors, quels sont nos... Et pourtant, je trouve que cette contribution est absolument nécessaire, notamment avec l'exemple que je viens de vous illustrer avec Mary McGuinness sur les questions migratoires. Ce qui est nécessaire aussi, c'est de toujours à nouveau porter une vision de l'Europe large. Et la CAQ et la COMESSÉ, on a toujours dit, vous ne pouvez pas laisser des pays dans l'antichambre quand ils ont produit les efforts pour adhérer. Alors que depuis les dernières adhésions, ça date de entre 2010 et 2020. Et donc beaucoup de pays sont dans l'antichambre et ne progressent plus du tout. Et donc régulièrement, on insistait pour que, notamment l'Albanie, alors il y a encore beaucoup de corruption, mais un certain nombre d'efforts ont été faits, ou la Macédonie, avec la reconnaissance de la Macédonie du Nord. Donc quand les efforts symboliques ont été faits, il faut que lentement on progresse sur cette voie d'adhésion, afin d'avoir une vision large de l'Europe, tout en admettant effectivement qu'il fallait réformer à un moment donné les mécanismes de fonctionnement interne. Et ce qui est important aussi dans ce plaidoyer, on en parlait un peu tout à l'heure quand vous avez présenté à table le programme de visite des écoles, il s'agit de montrer à travers notre plaidoyer à nos responsables politiques européens que les religions ont un sens de la responsabilité, une responsabilité citoyenne, font partie de la solution. Et que finalement, les assigner à résidence dans le coin des problèmes, c'est juste se tromper. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, à ce titre-là, on travaille sur un certain nombre de sujets. Je vais vous donner trois exemples et puis je conclue. On travaille beaucoup sur la question de la justice sociale. Chaque fois qu'un pays prend la présidence de l'Union européenne, il faut développer l'économie. Systématiquement, il faut encore un truc économique. Or, on a un vrai problème. On a un vrai problème. Je crois que le seul pays un jour qui a pris ça, c'est le Portugal, quand on a fait le sommet de Porto, où il a fixé en fait comme critère pour bénéficier des mécanismes de relance économique suite à la pandémie, le fait d'avoir des programmes de développement de l'employabilité des gens et de formation et d'accès à l'emploi, donc des mesures sociales, étaient nécessaires pour être éligibles à l'aide économique. C'est très intéressant, du coup, on aide la relance économique, mais on la donne à ceux qui font un vrai travail social. Donc c'est la justice sociale, les sociétés durables ont besoin voilà, ont besoin d'avoir un travail pour que, comme ils disent très joliment dans ce sommet social, nobody should be left behind, personne ne devrait être oublié dans le projet européen. Un sujet permanent aussi, c'est la question de la liberté religieuse. Ce n'est pas qu'en France qu'on a des lois qui parfois compliquent l'exercice du culte. On a eu, donc en 2021, la loi de la Saint-Barthélemy, les protestants s'en souviennent. Oui, c'était le 24 août, c'est la fête de la Saint-Barthélemy, donc de lutte contre les séparatismes ou confortant le respect des principes de la République. Et ben, pendant ma présidence, on a eu plusieurs lois qui voulaient interdire l'abattage rituel ou une loi qui voulait obliger de traduire en danois tous les prêches. Bien sûr, étaient visés les prêches en arabe, mais la petite paroisse anglicane au sud du Danemark ou la petite paroisse luthérienne au sud du Danemark, bon, aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, on pourrait peut-être enregistrer et le faire, mais à l'époque, c'était en fait une charge incroyable. Et en fait, ça fait partie de la liberté de culte. Voilà. Donc, on a vraiment des sujets qui jouent autour de la liberté de culte, où on a eu Sainte-Sophie. Je suis vainement, mais je suis intervenu pour quand Erdogan a décidé de rétribuer Sainte-Sophie au culte musulman. Voilà, on intervient sur des sujets de liberté religieuse qui sont extrêmement sensibles, avec plus ou moins de succès, mais il faut absolument intervenir. Au Danemark, on a réussi à bloquer la loi. Ça, c'est vrai. En France, c'était pas... Ensuite, on intervient sur la question des solidarités, notamment par rapport aux crises migratoires. Ça, j'ai évoqué le sujet. Un des grands sujets aussi, c'est souvent sur toutes les innovations éthiques ou les questions éthiques sur les innovations technologiques. On a travaillé dès 2018 sur l'intelligence artificielle pour essayer de contenir toutes les dérives, même si le mouvement vient. De toute façon, la technologie vient. On n'arrête pas le mouvement. On peut juste travailler et réfléchir comment limiter les usages abusifs de ces choses-là. Et peut-être, je terminerai là-dessus, le point le plus important, c'est quand même continuer à travailler à la paix en Europe. C'est un sujet qui est retenu alors de manière très sensible avec l'agression de l'Ukraine. Je voudrais vous dire que j'ai découvert qu'il y a une temporalité dans le plaidoyer des églises pour la paix et la réconciliation. C'est-à-dire des choses que vous pouvez dire à certains moments et pas à d'autres. On a dû apprendre ça, même le Vatican a dû apprendre ça à ses dépens quand... au moment du Vendredi Saint, juste après l'invasion de l'Ukraine, sur le chemin de croix, à la 13e étape, une femme russe et une femme ukrainienne avaient porté la croix. Et en Ukraine, ils étaient furieux. La réconciliation telle qu'elle était manifestée par cette unité en portant la croix ensemble, passait pas. Et un ami a écrit un texte en disant « Ces deux femmes ont porté physiquement la même croix, mais elles ne portaient pas la même croix. » Une portait la croix de la souffrance et l'autre celle de la repentance. Vous voyez la nuance. Hein. Donc il y a une temporalité. Et cette temporalité, j'ai identifié trois étapes que nous devons toujours porter. Et peut-être qu'on a un peu baissé la garde parce qu'on avait une absence de conflits armés sur le sol européen. Il y a le temps où finalement le conflit est exprimé par la violence des armes et toute la souffrance liée à la guerre que vous connaissez dans plusieurs lieux. Et en fait, le plaidoyer à ce moment-là doit être une demande de justice et de vérité. Avec la COMECC, c'était ça le leitmotiv de notre discussion. Justice et vérité, quand on est allé à la frontière ukrainienne avec Ulrich, qui commençait à envoyer notre message de Pâques là où arrivaient les gens qui fuyaient l'Ukraine, demande de justice et de vérité et un plaidoyer pour qu'on dépose des armes afin qu'un cessez-feu permette de redonner de la place à la diplomatie. Ça, c'est le premier temps, quand les armes parlent, justice, vérité et cessez-le-feu. On a essayé à plusieurs reprises, je n'ai pas été heureux pour ça, je vous raconterai ça tout à l'heure dans l'échange. Le deuxième temps, si on arrive à un cessez-le-feu, il faut pérenniser l'absence de violence armée. Donc trouver un accord pour avoir quelque chose de durable. Voilà. Et le troisième temps, je voudrais quand même le nommer, il faut guérir les mémoires blessées. faut guérir les mémoires blessées. Et nous avons énormément de mémoires blessées en Europe. Nous avons encore des mémoires blessées qui datent de 1919, en Transylvanie. Quand le traité de Versailles a découpé la Hongrie en laissant un bout de Hongrie en Roumanie, la Transylvanie, un bout de Hongrie en Ukraine, la Transcarpathie, là on a des mémoires blessées. C'est des microcosmes hongrois qui vivent dans un autre pays et qui se sentent des victimes de l'histoire encore 105 ans après. On aura des mémoires blessées en Palestine. On aura des mémoires blessées en Ukraine. Alors, j'imagine que vous savez ce dont je parle. Et en fait, c'est un travail. Alors, parfois, les gens l'oublient et on pense que quand les armes ne parlent plus, qu'on est en paix, tant que les mémoires ne sont pas guéries. Et la guérison des mémoires, vous savez, quelque part, les chrétiens ont su faire ce chemin. Je vais peut-être comment terminer là-dessus. On a su faire ce chemin-là dans le cadre du mouvement œcuménique. Nous avions habitude, les protestants, à voir dans notre historiographie, la façon de présenter l'histoire. On noircissait le Moyen-Âge, c'est une période absolument sombre. Tout était mauvais, je vous évite les détails. Et on disait, heureusement que la réforme est arrivée. Et dans les séminaires catholiques, c'était l'inverse. C'est lumineux la Renaissance et l'humanisme. Quelle déchéance, le XVIe siècle, les moines et les religions quittaient le monastère et se sont mariés, enfin, l'Église s'est divisée, tout était noir. Et en fait, on a su écrire le récit de l'ombre et des lumières des deux périodes pour avoir notre histoire de l'Église commune, et c'est sur ce socle-là qu'on guérit les mémoires. Quand on arrête de reproduire des préjugés à enfermer l'autre, dans une lecture orientée de l'histoire. Et guérir les mémoires, c'est faire ce travail. Faire le travail d'un récit commun auquel les uns et les autres adhèrent. C'est ce que j'ai proposé, par exemple, au président de la République pour la Nouvelle-Calédonie. C'est pareil pour le colonialisme. Il faut guérir les mémoires. C'est pas un passage en force avec un dégel du corps électoral qui permettra de sortir des émeutes qu'on a connues ce printemps. Donc voilà les trois temps de paix. Justice, vérité, cessez le feu. Pérenniser l'absence de violence et conforter la diplomatie et guérir les mémoires. Et ça, on a beaucoup à faire. Et les églises sont des vecteurs de réconciliation, comme on l'a été en Europe. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur cette expérience européenne.